Bonjour à tous. Alors justement, des présentations, parlons-en, parce que il est d'usage, lorsque l'on est invité dans une assemblée où les gens ne nous connaissent pas, de se présenter. Mais j'aimerais d'abord prêcher, et les présentations viendront ensuite. Nous avons, à vrai dire, une toute autre priorité aujourd'hui, celle qui nous rassemble, puisque nous avons à parler de la croix, c'est-à-dire l'événement qui fait que nous sommes là, rassemblés, 2000 ans après. Alors, n'attendons pas et lisons dans la parole de Dieu l'Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 16 à 30. L'Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 16 à 30. Alors, Pilate leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription : Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. Pilate répliqua : Ce que j'ai écrit restera écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux : Au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et, à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : Voici ton fils. Puis, il dit au disciple : Voici ta mère. À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit : Pour que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge, imbibée de ce vinaigre, au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Rappelons-nous ce qui précède de peu ce texte. Il nous faut le contextualiser. Pilate, par peur de déplaire à la foule, par populisme, dirait-on aujourd'hui, lui donne ce qu'elle veut, quand bien même cela est injuste. Même si la loi romaine ne condamnerait pas Jésus, l'innocent qui n'a tué personne, eh bien là, il est condamné à mort. Même si c'est Rome qui domine, qui juge du droit, ici, Rome ne domine plus, ne juge plus selon ses lois. Elle donne le glaive du jugement à la foule. Et c'est Jésus, l'innocent, qui est condamné. La paix, et nous le savons encore aujourd'hui, se fait au prix du sang d'innocents. Il doit mourir, disent-ils, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais l'accusation, chers frères et sœurs, est bidon. Elle ne tient pas. Elle ne tient pas devant l'évidence. Jésus ne s'est pas fait le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. C'est là la grande différence. Mais pouvait-il seulement l'entendre ? Pouvait-il seulement la comprendre ? Non, ils ne le pouvaient pas, car ils avaient un voile sur les yeux. Et c'est là, mes frères et sœurs, que l'on comprend jusqu'où la perversion humaine peut aller. À Jésus, l'innocent, on fera subir le pire des châtiments, à la fois le plus terrible dans les souffrances et le plus humiliant, car on l'expose à tous, celui de la croix, de la crucifixion. Oh, oui, c'est là qu'on voit à quel point le péché a perverti nos intelligences, car toujours en nous, nous trouvons des trésors d'ingéniosité quand il s'agit de faire souffrir un autre homme, notre prochain. Alors là, oui, là nous sommes intelligents pour trouver des moyens de torturer l'autre. Qu'il en soit ainsi. Jésus, l'innocent, souffrira donc, parce que la foule le veut, alors il doit mourir. Nous lisons au verset 16 à 18. Alors Pilate le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils s'emparèrent donc de Jésus, celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé « lieu du crâne », en hébreu « Golgotha ». C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Devant nous, le tableau. Trois croix, dont celle de Jésus au milieu des deux autres. Chaque évangile, vous le savez, apporte son lot d'informations complémentaires qui nous permettent d'avoir la vision d'ensemble des quatre. Lorsque nous les harmonisons, c'est là que se présente le plus précisément le tableau. Il faut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, si Matthieu, Marc, Luc et Jean, justement, nous donnent l'identité de ces deux larrons, Jean, lui, se focalise plus sur les détails de l'écriteau, qui est placé au-dessus de la croix de Jésus. Il nous dit que cette idée vient de Pilate et qu'il y fait inscrire en hébreu, en latin et en grec, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Pilate, c'est le moins que l'on puisse dire, a le sens de l'humour, c'est de l'ironie. La provocation, cependant, ne tarde pas à faire réagir les chefs religieux. Mais Pilate reste inflexible. De l'écriteau, pas un seul iota, ni un seul trait de la lettre ne changera. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, sera visible dans toutes les langues disponibles à l'époque pour l'Empire à la vue de tous. Mais après avoir parlé de ce qui était écrit sur l'écriteau, venons-en à l'accomplissement des Écritures. Nous voyons les soldats se partager la tunique de Jésus. Savent-ils ce qu'ils font ? Bien sûr que non. Savent-ils qu'ils accomplissent l'Écriture ? Bien sûr que non. Et c'est là qu'on voit à quel point la souveraineté de Dieu se sert de la méchanceté des hommes pour que s'accomplisse sa parole, que s'accomplissent ses plans, ses desseins. Car dans le psaume 22, au verset 18, comme il nous est rappelé, il est écrit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Oui, ces hommes sont en train de dépouiller, il n'y a pas d'autre mot, celui que l'on fait mourir. Ces rapaces, sans le savoir, pourtant, servent la gloire de Dieu. Et quel contraste, d'autant plus précieux, dans l'attitude de celui qui se fait dépouiller, qui est humilié, en train de souffrir sur la croix, qui ne pense pas à lui, mais se préoccupe de sa mère, des siens. Quelle leçon, oui, pour nous et nos moi-je, car à chaque fois que nous souffrons, nous nous croyons les plus malheureux du monde. Toujours, à chaque fois. Ah, oui, ils sont beaux, les païens qui se partagent la tunique de notre Seigneur Jésus. Mais sommes-nous vraiment toujours mieux qu'eux ? Personnellement, je ne le crois pas. Car il y a une question que l'on doit se poser. Combien d'entre nous aurais-tu le courage de Jean ? Jean, que l'on surnomme, et à raison, l'apôtre de l'amour, tant l'amour dans ses textes y prend une part importante. Mais nous devrions aussi l'appeler l'apôtre du courage. Jean, c'est le disciple de Jésus qui ne faillit pas. Jean, c'est celui que Jésus aimait. Jean est celui qui ne détourne pas le regard, qui est au pied de la croix avec le Christ quand il souffre, quand il meurt. Où sont les autres ? Ils ne sont pas là. Il n'y a que Jean et les femmes qui accompagnent Jésus. Et en ce vendredi saint, c'est son évangile, son témoignage, ce qu'il a vu de ses yeux, que nous lisons. Et je l'imagine pleurer pendant qu'il écrit ses pages. Et pourtant, oui, j'en pleure, mais c'est sans hésitation que l'on se devrait de l'appeler l'apôtre du courage. Je le rappelle encore une fois, il était avec Jésus, à la croix, pas les autres. Non, il n'était pas là. Et bien plus tard, nous le savons, lorsque nous lisons un autre livre de lui, l'Apocalypse, c'est pour Jésus, pour le nom de Jésus, qu'il fut exilé sur une île où il n'y avait rien que des grottes. Pour avoir tenu, coûte que coûte, pour avoir défendu son nom, Jean, apôtre, tu es pour nous un modèle de courage. Jésus t'aimait pour cela, pour ton amitié, ta fidélité, ton courage et ta foi. Jésus, ton ami, ton Seigneur, te confie sa mère. Et c'est avec tant de pudeur que tu écris, dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean parle de lui à la troisième personne. Il n'y a pas de moi-je ici. C'est ça l'humilité. Humble parmi les humbles, apôtre du courage. C'est ton évangile, en ce vendredi saint, que nous lisons. Et nous en arrivons à la conclusion. C'est ici que s'achève l'agonie, que Jésus meurt. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Savons-nous encore aujourd'hui ce que cela veut bien signifier ? Là non plus, je ne le crois pas. Et j'en veux pour preuve, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat, que ce que nous appelons l'illettrisme biblique, c'est-à-dire le fait que des chrétiens ne lisent plus ou trop rarement la Bible, ne cesse d'augmenter. Alors pendant longtemps, c'était notre fierté en tant qu'évangéliques, nous étions à l'abri. Nous ne connaissions pas l'illettrisme biblique. Les évangéliques, tous les jours, lisaient leur Bible. Et aujourd'hui, les temps changent, et pas pour le mieux. Non, aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'abri. L'évangélisme, malheureusement, a comme voulu rattraper son retard, et maintenant devient même plus illettré que les autres traditions chrétiennes. C'est là que nous devons nous interroger. En effet, de nos jours, les évangéliques qui lisent la Bible quotidiennement sont très minoritaires. Ceux qui la lisent une fois par semaine, un peu moins. Et ensuite, tout s'effondre. Alors, posons-nous la question. Pourrons-nous, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque plus personne parmi nous ne lira la Bible, nous dire encore protestants, nous dire encore évangéliques ? À cette question, il n'y a qu'une seule réponse, et c'est non. Nous venons de parcourir ensemble le récit de la crucifixion de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Et c'est aussi dans cet Évangile que nous pouvons lire. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et si ces choses sont écrites, c'est donc que nous avons à les lire. Alors, pour mieux comprendre, nous lisons l'Évangile selon Jean. Et où se trouve-t-il ? Dans la Bible, l'Ancien Testament pour Jean, à son époque. Alors, pour mieux le comprendre, lui, qui ne cesse d'y faire référence, nous lisons aussi l'Ancien Testament, qui est là pour nous rappeler toutes les promesses que Jésus vient accomplir, toutes les promesses que Dieu a faites et qui se concrétisent en Jésus-Christ. Victor, que vous connaissez bien, alors que nous parlions justement ensemble de la question, du défi, de l'enjeu que constitue l'illettrisme biblique, me disait que pour lui, un chrétien qui ne lit pas l'Ancien Testament serait un peu comme quelqu'un qui arrive très à la bourre au cinéma. Il verrait la fin, il verrait que tout le monde est heureux, qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais ils ne comprendraient pas ni les épreuves, ni par quoi ils sont passés, ni les souffrances, les tristesses. Et je trouvais cette formule très parlante. Effectivement, si nous ne lisons pas l'Ancien Testament, nous arrivons à la bourre au cinéma. Nous ne comprenons pas quels ont été tous les enjeux du film. On verrait que tout se termine bien. Mais pourquoi ? Pourquoi en a-t-il fallu arriver là ? On ne saurait pas. Si j'insiste là-dessus aujourd'hui, en ce Vendredi Saint, c'est que le danger est maintenant, c'est qu'il m'est arrivé, chers frères et sœurs, de rencontrer des pasteurs qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Et là, je crois que nous venons de passer un cap. Je crois que Satan va s'en servir. J'en suis même convaincu. C'est déjà à l'œuvre. Il m'est arrivé, par exemple, lorsque j'étais pasteur stagiaire à Colmar, de voir une église chrétienne qui s'implantait. Savez-vous ce que l'on pouvait lire sur la devanture ? Nous ne reconnaissons que le Nouveau Testament. Colmar, Pignon-sur-Rue, à côté du cinéma pour ceux qui connaissent. Une église qui ne reconnaît que le Nouveau Testament. Oui, Satan s'en sert déjà. Je voudrais donc, chers frères et sœurs, remettre à vos prières et à vos réflexions, dans la communion du Saint-Esprit, le sacrifice que le Fils, comme il est prophétisé dans les Écritures, a dû subir sur la croix pour les accomplir et nous réconcilier enfin avec le Père. Le Père contre lequel nous avons tous péché en Adam. Oui, le Christ a dû subir la croix pour qu'enfin nous puissions vivre pleinement cette communauté d'amour, cette communion d'amour entre le Dieu trois fois saint, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez, dans le protestantisme, nous aimons à dire « Dieu est grand parce qu'il m'a sauvé ». Non, Dieu est grand quand bien même il ne t'aurait pas sauvé. Dieu aurait très bien pu, par son Fils, apaiser sa colère. Il n'était en rien obligé de nous donner la vie éternelle. Et pourtant, il le fait pour que nous puissions vivre pleinement, participer à cette communauté d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là que nous le connaissons pleinement. Ce prix sur la croix que nous aurions dû payer, nous n'aurions pas pu le payer. Alors Christ l'a payé pour nous, sur la croix, une fois pour toutes. En faisant cela, il nous a sauvés. Je voudrais prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi seul connais les défis qui attendent ton Église. Tu sais combien, souvent, notre souvent, nous manquons de courage. Nous manquons de lire tout ce que tu nous dis, nous partages, à travers ta parole infaillible, la Bible. Et pourtant, pour ce qui concerne notre salut, Tout s'y trouve. Pourquoi diable chercherait-on ailleurs ? Alors, Seigneur, toi, le Dieu Trine, nous voulons te prier afin que tu nous soutiennes dans ces épreuves, mais aussi afin que tu nous donnes, par ton Saint-Esprit, l'intelligence et la piété nécessaires pour y répondre. Satan rôde et il attend, mais par ta parole, nous savons qu'avec toi, nous serons plus que vainqueurs contre lui. À Dieu seul soit la gloire. Amen.